Vous avez compris, il faut bien écouter, il faut pas faire qu'entendre. Alors, bon, je vais être très original, mais une nouvelle année d'église commence. Personne s'en était rendu compte. Une année qui sera quand même pour beaucoup dans la continuité de l'année précédente et des années précédentes. On réinvente pas l'église chaque année, mais qui a aussi son lot de nouveautés.
Je vois pas.
Mais un nouveau départ qui me fait me poser une question. Qu'attendons-nous de ce départ? À quoi aspirons-nous? À quoi voulons-nous travailler? À quoi voulons-nous que notre communauté ressemble? C'est une question compliquée et surtout, le problème, c'est que la Bible reste très vague sur le sujet. Et je pense que c'est à juste titre. Nous n'avons pas de modèle à suivre. La Bible ne nous enferme pas dans une manière de faire qui serait meilleure que les autres. Mais elle ne nous laisse pas non plus orphelins, sans repères, sans conseils, sans réflexion. Et j'ai notamment été interpellé par un récit. Un récit qui peut nous encourager, je pense, vers une certaine direction. Et je vous invite à étudier ensemble trois morceaux de ce récit dans le livre des Actes. Et le premier morceau se trouve en Actes 2, les versets 42 à 47. Actes 2, 42, 47. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Un deuxième morceau de ce récit, un peu plus loin, au chapitre 4, toujours dans les Actes, les versets 32 à 35 du chapitre 4. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. Et enfin, un troisième morceau de ce récit, cette fois au chapitre 6 du livre des Actes, les versets 1 à 7. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors, les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. » Nous les chargerons de ce travail. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Cette proposition convint à tous les disciples. Ils élurent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche qui s'était converti au judaïsme. Ils les présentèrent aux apôtres qui prièrent pour eux et leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait toujours plus, le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et même de nombreux prêtres obéissez à la foi. Alors en étudiant ce texte, il nous faut quand même un petit peu être prudent. Ces textes ne sont pas des textes qu'on appelle didactiques, qui nous enseignent quoi faire, comment le faire. Ces textes ne disent pas une église locale, ça doit être comme ça. Ce sont des histoires, c'est une histoire, c'est un exemple qui peut nous éclairer, nous enseigner, mais qui ne doit pas devenir la seule manière de faire. Je pense pourtant que ce récit peut nous donner quelques pistes intéressantes pour notre communauté. Au début de ce récit, nous sommes à Jérusalem, peu de temps après la Pentecôte. L'Église en est à ses débuts, tout est nouveau, tout est à inventer. Et personnellement, la description qui est faite de la première communauté chrétienne m'a toujours fait penser à un groupe de hippies version Église. Et je vous relis ce verset qui me ferait presque, je dis presque, hein, penser à certaines communautés New Age. « Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. » Désolé, ça me fait sourire un peu à chaque fois. C'est une communauté parfaite, mais il y a quand même des besoins. Dans cette toute jeune communauté, il y a notamment le besoin d'entraide matérielle. Il y a des riches, il y a des pauvres, certains ont trop, d'autres pas assez. Alors les chrétiens ont voulu partager leurs biens, et tout naturellement, ce sont les responsables de cette communauté, les apôtres, qui centralisaient les collectes et qui se chargeaient de répartir le fruit de cette collecte équitablement. C'est une communauté parfaite, sans soucis, sans problèmes, sans tension. Et tout va pour le mieux dans cette petite communauté, une communauté qui fait rêver, mais il faut être réaliste, une communauté qui ne nous ressemble pas. Et j'en ai jamais vu des comme ça. Nous ne sommes pas une communauté sans problème, vivant dans une parfaite harmonie de cœur et d'esprit. Et pour le moment, face à cet idéal, on passe quand même un petit peu pour les mauvais élèves de la classe. Mais notre récit continue, et ça va se compliquer. Mais pourquoi ça se complique ? Il y avait un modèle en place, un modèle qui fonctionnait, semble-t-il, à la perfection. Pourquoi tout d'un coup ça déraille ? Eh bien, c'est notre texte qui nous donne la réponse, au tout début du chapitre 6. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Palestine. La communauté augmente, elle change, elle évolue, et des personnes arrivent de différentes cultures, de diverses nationalités. Il y avait des besoins dès le départ, mais avec l'augmentation du nombre, se pose le problème de l'augmentation de ces besoins. Il y avait une manière de faire au départ, mais avec la diversité culturelle des chrétiens, se pose la question des inégalités qu'entraîne cette manière de faire. Une communauté changeante, diverse dans sa composition, dont le nombre n'est pas fixe, qui peut connaître des tensions, parfois des inégalités. Ça fait peut-être moins rêver que le modèle du début, mais est-ce que ça ne nous ressemble pas déjà un peu plus ? Et j'irai même plus loin. Est-ce que cette évolution, qui peut paraître négative, on a l'impression que ça se dégrade, est-ce que ce n'est finalement pas nécessaire ? Je m'explique. La communauté parfaite du début voit surgir des tensions parce que, le texte nous le dit, le nombre de chrétiens augmente et que ces nouveaux convertis viennent de cultures différentes. C'est ça la racine du problème. Mais souvenons-nous de ce que le Christ a ordonné à ses disciples avant de les quitter à la fin de l'évangile de Matthieu. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi : « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. » Faire des disciples parmi tous les peuples, c'est la mission de l'Église, c'est son but. Et si l'Église suit ce but, si elle fait des disciples, elle doit normalement grandir. Et si elle va vers les gens de toutes les nations, sa composition peut en venir à changer. Une augmentation du nombre et différentes cultures. Les ingrédients des tensions et des inégalités dans cette première communauté chrétienne sont tout simplement le résultat de son travail, de son obéissance au Christ, à la mission qu'il lui a confiée. Je trouve que c'est une première indication très importante et même rassurante que nous apporte ce texte. Vivre en tant qu'Église, vivre à la fois dans l'amour fraternel et dans l'obéissance à la mission que le Christ nous a confiée, ça ne veut pas dire chercher à éviter à tout prix le conflit ou les tensions. J'ai eu de longues, très longues études universitaires, hein, qui ont duré 12 ans, et qui m'ont amené dans 4 grandes villes universitaires différentes, Montpellier, Toulouse, Paris et Bordeaux. Du coup, j'ai pu expérimenter quand même quelques églises. Et l'une d'entre elles, en particulier, était très accueillante, très fraternelle, sans aucune tension apparente, sans problème interne, du moins pour autant que je l'ai su. On ne sait pas tout parfois. Cette communauté prenait grand soin de ses membres. Elle les visitait beaucoup, les gens s'entraidaient. Les gens prenaient des nouvelles les uns des autres, ils partageaient des repas fraternels tous les dimanches. Tous les dimanches midi, les gens de cette communauté mangeaient ensemble. On y était super bien, dans cette église. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était une église assez fermée au monde, qui n'allait pas vers les gens pour leur parler du Christ. Une communauté qui, peut-être inconsciemment, appliquait bien le proverbe « pour vivre heureux, vivons cachés ». À un point tel que j'ai appris par la suite que les voisins de cette église, les gens qui habitaient directement à côté, n'avaient jamais eu le moindre contact avec aucun membre de cette communauté. À un point tel qu'ils commençaient à avoir des doutes et qu'ils avaient entamé une procédure auprès de la mairie pour la déclarer comme secte, alors qu'elle ne l'était pas du tout. Je pense qu'une église qui ressemble à ça, ça a beau être une église où il fait très bon vivre, une église où, qui nous fait du bien, je pense que c'est une église qui se trompe. Il est important de prendre soin les uns des autres. Il est important d'avoir des moments fraternels forts. Et tout cela, la première communauté chrétienne le faisait. Mais le texte nous dit aussi qu'avec une grande puissance, il témoignait, il rendait témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Ils ne s'enseignaient pas qu'entre eux. Ils annonçaient aussi l'évangile autour d'eux. Le texte nous dit aussi que le peuple tout entier leur était favorable. Donc je pense qu'ils ne devaient pas que s'entraider entre eux. Ils devaient aussi apporter leur aide autour d'eux, faire preuve de bonté, de générosité, d'amour, et être reconnus pour ça dans leur société. La toute première communauté chrétienne, sans souci, sans tension, celle qui peut faire tant rêver, je pense qu'elle ne peut pas rester comme ça durablement si elle remplit réellement la mission que le Christ lui a confiée. Et dans notre texte, la communauté n'a pas cherché à rester comme ça, elle n'a pas fui le changement ou le conflit, sans le rechercher non plus, hein, faut pas tomber dans un excès inverse, mais elle a eu une attitude très paisible, très saine face à la difficulté. Et en étudiant sa manière de faire, je pense que là aussi nous pouvons tirer des enseignements et des encouragements surtout. Dans la communauté du départ, comme nous l'avons vu, les apôtres suffisaient à tout faire. Ils s'occupaient à la fois de l'enseignement, de la prière et de la répartition des biens. Mais lorsque la communauté augmente, les besoins dans tous ces domaines augmentent aussi. Il y a plus de personnes à enseigner, plus de sujets de prière desquels se préoccuper, et il y a plus de pauvres entre qui répartir le fruit des collectes. Tous les besoins sont multipliés, mais le nombre des apôtres ne grandit pas. Ils étaient 12 lorsque la communauté en était à ses débuts. Ils sont toujours 12 maintenant qu'elle a grandi. Et fatalement, les services qu'ils rendent deviennent moins bien effectués. Certains se retrouvaient défavorisés dans les distributions. La répartition se fait moins bien et des tensions commencent à monter au sein de la communauté. Alors, qu'ont-ils fait face à la difficulté ? Premièrement, notre texte nous dit « Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples. » La communauté se rassemble pour discuter, pour parler librement, dans l'amour les uns pour les autres, ainsi que dans la liberté. C'est un peu leur première assemblée générale extraordinaire. Ils ne veulent pas éviter ou cacher un problème, ils discutent paisiblement de ce problème, de ce besoin qui a grandi. Deuxièmement, ils discernent ensemble quel est le besoin qui pose problème. Et ils se rendent compte que ce sont en fait tous les besoins qui ont augmenté. Les apôtres ne suffisent plus à la tâche. Alors, troisièmement, ils inventent, ils imaginent de nouveaux services qui seront mieux adaptés aux besoins que l'ancienne manière de faire. Ils ne cherchent pas le changement pour le changement, mais ils ne restent pas non plus attachés à une manière de faire lorsqu'elle ne fonctionne plus ou mal. Ils décident de confier d'un côté le service d'enseignement et de prière aux apôtres et d'un autre côté de créer un service spécifique pour la répartition des biens aux pauvres. Et enfin, quatrièmement, ils cherchent à discerner les dons nécessaires à ce service. Et donc ensuite des serviteurs, des personnes qui ont reçu du Saint-Esprit les capacités nécessaires pour rendre correctement ce service. Concrètement, ici, le texte nous dit qu'il discerne que le service de répartition des biens nécessite des personnes dignes de confiance et ayant reçu du Saint-Esprit des dons de sagesse. On comprend facilement pourquoi. Alors, il cherche ensuite 7 personnes qui répondent à ces critères. Il prie pour eux et il leur confie officiellement ce service. Une petite remarque, au passage. Pour pouvoir choisir des personnes ayant les dons nécessaires pour remplir un service, il faut avant tout que nous nous connaissions nous-mêmes, que chacun se connaisse les dons que le Seigneur lui accorde, mais aussi que nous nous connaissions entre nous, pour que la communauté puisse discerner les capacités recherchées parmi ses membres. Et malheureusement, le sujet des dons spirituels fait souvent peur dans le milieu évangélique par crainte de certains débordements. Et on en vient parfois à ne plus se préoccuper de ce sujet, à l'éviter, à le laisser de côté, alors qu'il reste important et qu'il peut être traité paisiblement. Alors au final, qu'avons-nous vu dans ce texte ? Notre récit débutait avec une église parfaite, sans problème, sans souci, remplie d'amour. Ça fait rêver énormément de chrétiens. Devenir une église sans souci est même le but à atteindre pour certaines communautés. Mais une église qui vivrait à la fois dans l'amour fraternel et dans l'obéissance à la mission que le Christ nous a confiée, une telle église ne peut pas éviter les changements, les tensions et les conflits. Mais en vivant dans l'amour les uns pour les autres, dans la compréhension, dans l'humilité, dans l'écoute et le partage, dans le souci les uns pour les autres, avec aussi pour souci premier de toujours mieux répondre à l'appel que le Christ nous a donné. Dans cette optique-là, un conflit ou une tension ne deviennent pas néfastes, ne s'enveniment pas, mais au contraire amènent à la réflexion collective ou au dialogue et participent à la marche en avant de la communauté selon la mission que le Christ confie à son Église. Nous pouvons chercher à devenir une Église sans souci, ou alors nous pouvons devenir une Église qui fait face aux tensions, paisiblement, dans l'amour et l'humilité. Une Église qui dialogue, qui invente, qui discerne. Une Église qui prend soin de ses membres, mais aussi qui accomplit sa mission dans le monde qui nous entoure. C'est l'exemple que nous avons reçu dans le texte de ce matin. Un exemple moins confortable, plus difficile. C'est aussi ce que, pour le moment, j'ai discerné dans cette communauté, et j'en suis heureux. Et ne vous inquiétez pas, soyez rassurés, car voici ce que le texte nous dit au sujet de cette communauté qui n'a pas eu peur de rester entre elles, qui n'a pas eu peur des difficultés de sa mission. Voici ce que nous dit le texte. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre des disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem. Et ça, ça me fait rêver. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton Église que tu as achetée au prix de ta vie. Merci pour ton Esprit en nous qui nous unit, nous guide, nous donne l'amour et la sagesse nécessaires pour avancer dans l'unité malgré les difficultés. Père, aide-nous en ce début d'année à savoir comment tu veux que nous avancions ensemble. Rends-nous humbles, à l'écoute de ta volonté et à l'écoute les uns des autres, pour que toujours notre communauté puisse aller de l'avant sur le chemin que tu y traces, et ce dans la joie, l'unité et la paix que tu nous offres par ton esprit. Merci Père pour cette famille que tu nous as donnée. En ton nom. Amen.